Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciades et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Pascal Dessin. Bonjour Pascal.
Bonjour Claire.
Pour son dernier ouvrage qui s'intitule L'appel de l'huître, chroniques vertes et vagabondes aux éditions du Rivage. On en parle dans quelques instants avec lui, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Tout d'abord, pour vous dire que ce soir, jeudi 14 mai à 19h à la librairie du Scribe à Montauban, qui se situe 115 Faubourg La Capelle, chez notre ami Jacques Griffaut. Vous pouvez rencontrer l'auteur Claudie Gallet pour son nouveau roman Les Déferlantes, c'est au pluriel, un roman maritime, comme son nom l'indique, avec où le vent et la mer sont des personnages à part entière. Donc c'est ce soir au Scribe à Montauban. Et puis demain justement, nous retrouvons Pascal Dessin, j'en perds mes notes, hein, ça, je suis troublée. Alors demain, vendredi 15 mai, à Grenade-sur-Garonne, à 18h, vous pourrez retrouver Pascal Dessin qui dédicacera son livre L'appel de l'huître, donc chroniques vertes et vagabondes, et c'est à la librairie Grand Selve. À Grenade-sur-Garonne, oui. Oui. Tout à fait. Demain soir également, alors là le choix va être dur, à Rabastens, à 19h, au bar des sports de Rabastens exactement, Boris Vian est à l'honneur avec des chansons, des lectures, des scénettes. Donc vous pouvez même amener vos textes préférés de cet auteur illustre. Donc c'est demain à 19h à Rabastens. Donc le choix va être dur entre Pascal Dessin et Boris Vian. Oh. On laisse aux auditeurs le choix. Rencontre également alors avec Julien Campredon, c'est à Carcassonne. Là, je vous donne beaucoup d'infos, c'est un peu en dehors de Toulouse. Mais bon, voilà, le mois de mai, on peut bouger, alors n'hésitons pas. C'est samedi 16 mai à 10h30, c'est tôt le matin, à la librairie Mot et Compagnie, 35 rue Armagnac à Carcassonne, pour une rencontre avec l'auteur de Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes. Donc Julien Campredon à Carcassonne samedi. Et puis je vous donne deux dates un peu loin, mais tout ça parce que la semaine prochaine, c'est jeudi de l'Ascension, donc il n'y aura pas d'émission Page à Page. On se retrouvera le 28 mai. Donc je vous donne la date du samedi 23 mai pour l'atelier poésie de 10h30 à 12h30 au petit auditorium 3e étage de la médiathèque José Cabanis, animé un atelier, donc lire la poésie, animé par Blandine Poney. Alors il faut s'inscrire, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire pour une question d'organisation au 05 62 27 45 24. Et puis une autre date, l'heure du conte en langue des signes, au grand auditorium également, à la médiathèque José Cabanis, mais au Red Jardin, au grand auditorium Red Jardin. Et c'est le mercredi 27 mai à 16h. Ce sont des contes, donc, des albums de Grégoire Solotareff, qui fait une exposition actuellement également à la médiathèque José Cabanis. Alors les illustrations sont projetées simultanément sur grand écran, et c'est pour un public à partir de 5 ans. C'est destiné donc aux enfants sourds et malentendants. C'est d'une durée de 30 minutes et l'entrée est libre et gratuite. Donc c'est mercredi 27 mai à 16h.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupidou. Alors, je me tourne vers Pascal, mon invité d'aujourd'hui. Alors, est-il utile de rappeler qui tu es? Oui, quand même, s'il y a de nouveaux auditeurs depuis la dernière fois. Donc, Dunkerque, ta ville natale, votre ville natale.
C'est trop tard maintenant, il faut continuer comme ça.
Bon, alors on se tutoie. Trop tard. Toulousain d'adoption, mais un peu brénou, hein, parce que bon, un stage, un séjour dans l'Indre pour le roman Cruelle Nature, un roman de 2007,
oui.
Donc un peu brénou aussi, hein, voilà.
Brénou un jour, brénou toujours.
Ah voilà. Passionné d'ornithologie, toujours, hein, on retrouve dans Cruelle Nature, justement, et puis dans Tu ne verras plus, le roman de 2008.
Hein, tout à fait, oui.
Voilà, mmh. Et passionné de voyage aussi.
Bon, on est partout quand on est écrivain, un peu.
Voilà.
Enfin, moi, j'aime me considérer comme un homme du monde entier, quoi, à la manière de Sandrard. C'est très, très important de ne pas être attaché
à un seul,
viscéralement à un lieu. Alors, c'est bon d'avoir
des racines.
Mmh. C'est bon d'avoir des racines multiples. Moi, je pense aujourd'hui en avoir de multiples, nordistes, sudistes. Et puis, il y a des lieux comme ça que j'ai visités, j'ai traversés, où je me suis fait des amitiés. Et c'est précieux pour moi. Et donc, voilà, j'ai un petit peu... Enfin, si on devait me comparer à une plante, j'aurais un peu de la liane, un peu. Je tourbillonne.
Du lierre aussi, voilà. Aux aspérités de...
Exactement.
Très bien. Et alors, donc, je disais, Cruelle Nature, on ne va pas refaire toute la bibliographie, mais donc les derniers livres pour lesquels, d'ailleurs, tu es venu ici à page, donc Cruelle Nature en 2007, Tu ne verras plus en 2008. Donc, Cruelle Nature, c'était un peu un roman noir sur fond de nature. Hein, et Tu ne verras plus, on retrouvait Félix Dutray,
l'enquêteur,
voilà, sur sa péniche, sur le canal du Midi. Et donc, alors celui-ci, par contre, donc 2009, nous retrouvons Pascal Dessin avec L'appel de l'huître, chroniques vertes et vagabondes. Alors là, c'est tout à fait différent. C'est un recueil de 14 chroniques, de 14 petites histoires, de pensées, d'idées, on trouve un Pascal Dessin intime, intimiste.
C'est-à-dire que c'est pas du tout la même démarche d'écriture. Ça va dans le même sens parce que il y a à travers ces chroniques la volonté de créer comme un complément à la veine romanesque qui est sous le signe de la nature maintenant depuis quelques années, depuis 2003. Les romans ne permettent pas de tout dire. Et puis le lecteur, il peut toujours se demander si c'est pas même si on y délivre des choses sérieuses et argumentées, scientifiques, il peut toujours quand même se demander si ce n'est pas du fait du délire de l'auteur, une invention de l'auteur.
La fiction, quoi.
Mmh. Voilà. Et très légitimement, hein, c'est bien que ce soit comme ça. Mais moi, il m'a semblé que, sans perdre de ma fantaisie et de l'humour que j'aime utiliser pour raconter les choses, il m'a semblé nécessaire de raconter la nature d'une manière plus sérieuse, donc sous la forme de chronique qui ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un compte-rendu d'un fait, d'un événement, un instant de vie capté comme ça, plutôt de ancré dans le moment, dans l'époque. Donc voilà. Alors il y a une certaine désinvolture, il y a une certaine fantaisie, comme je disais.
Il y a de la colère aussi.
Il y a de la colère, il y a des sentiments, il y a de l'émotion.
Ah oui.
Mais là on raconte. Enfin, c'est la vie telle qu'elle est, quoi, la vie même.
Alors donc ce livre, il est dédié à Félix, ton fils de 7 ans. On peut dire par extension un peu à toute cette nouvelle génération peut-être.
Ceux sur qui repose l'avenir de la nature, de l'environnement, c'est eux qui ont la solution, quoi. C'est eux qui auront ils auront la difficulté d'agir parce qu'on n'aura pas facilité le travail.
On a un peu bâclé les choses, là. Donc maintenant, c'est à eux de...
Bon, mais je suis assez optimiste dans le sens où il me semble que les comportements changent. Il me semble que les gens sont beaucoup plus soucieux de la nature qu'ils ne l'étaient à une certaine période. C'était le fait, il y a encore 10 ans, de quelques fantaisistes originaux. Ceux qu'on leur qualifiait d'écolos. Aujourd'hui, ça n'a plus du tout la même connotation.
C'est moins péjoratif.
C'est beaucoup moins péjoratif. Et puis chacun a pris conscience qu'il était très important de rectifier le tir. Donc les enfants, eux, auront un rôle primordial, fondamental sur ces questions d'environnement.
Dur labeur qu'on leur réserve à nos enfants. Ouvrage sur papier recyclé, c'est les éditions Rivage ont, vont dans ton sens. Hein,
oui, alors c'est ça, j'en suis très très content parce que c'est le fruit d'une réflexion avec donc les mes éditeurs. C'est vrai que c'est pas évident. C'était déjà le fait du précédent recueil, Andra sur le Kilimandjaro, puisque ça c'est le deuxième volet de ce cycle de chroniques. Voilà, bon, c'est essayer d'être cohérent jusqu'au bout.
Voilà, jusqu'au bout, voilà. Le contenu et le contenant.
Exactement.
Et alors, c'est un petit format de livre. Moi, j'aime beaucoup. Ça tient dans une poche.
Ça tient dans la poche, c'est pas cher. Voilà, ça se partage.
Tout à fait. Pour ceux qui sont passionnés de randonnée, hop, on met ça dans le sac à dos, la poche. Donc, l'appel de l'huître. Et donc, c'est la photo de couverture est très sympa. Donc, ce sont deux pieds nus dans l'herbe. Hein. Alors, peux nous dire à qui appartiennent ces deux pieds nus?
Je sais à qui.
Pascal.
Non, je sais à qui ils appartiennent. Ils appartiennent à un jeune étudiant du lycée des Arènes qui s'appelle Émile Sacré. Alors, pour la petite histoire, et ça fait partie justement des belles rencontres, comme certaines que je raconte dans ces chroniques. C'est une enseignante du lycée des Arènes, Christine Dubèche, qui m'a proposé de venir converser avec ses étudiants et elle aura
sujet de l'environnement par rapport
puis ce sont des étudiants qui travaillent dans le domaine du graphisme c'est leur formation et alors avec l'idée de leur soumettre un petit exercice et dans l'optique de sortir ce livre ils ont travaillé autour du titre L'appel de l'huître. Voilà. Et au départ, il n'y avait évidemment pas le projet que ça devienne une couverture. Il fallait voir le résultat déjà. Et puis, c'est pas évident. Hein. Il y a des domaines dans lesquels l'auteur n'intervient pas hein, dans une maison d'édition, notamment la conception graphique. Et puis voilà, au final, il est apparu qu'un projet remportait l'adhésion de tous. Et donc c'est une belle histoire, voilà. Donc c'est très heureux.
Ce sont les pieds donc d'un étudiant toulousain,
voilà. Voilà.
Alors donc ce recueil, comme je le disais, donc de 14 chroniques. Alors moi j'ai beaucoup aimé. Donc il y en a 3 qui sont déjà parus dans la presse hein, sur les 14. Oui. Hein, il y en a déjà 3. Et alors moi j'ai trouvé que c'est vraiment un hymne à la vie, à la nature, hein, avec tu le disais tout à l'heure, avec de la colère parfois, mais aussi beaucoup d'espoir et de foi, de passion en la nature, en l'espoir de l'avenir, la foi pour demain.
Oui, mais on peut pas.
C'est pas mélancolique, je veux dire, c'est pas.
Non, mais bon, il y a deux postures. Soit on dit tout est foutu, on plonge la tête dans le sable, on baisse les bras, on adopte, la posture du cynique et du désabusé, et on dit ouais, voilà. C'est une posture qu'adoptent pas mal de gens, qu'ont adopté des générations entières, et c'est pour ça qu'on en est là. Ou alors, on garde les yeux ouverts, on essaie de regarder ce qui est beau autour de nous. Donc, ce qui est beau, on n'a pas envie de le perdre, on a envie de le préserver. Ça suppose dès lors l'action. Ça suppose de relever ses manches, de faire fonctionner son esprit, de motiver les troupes. Je crois qu'il y a. On ne peut pas protéger ce qu'on connaît pas. Donc,
il faut déjà bien connaître.
Voilà,
le combat
commence par la connaissance des choses. Et ce recueil a un peu cette ambition, c'est de dire, regardez autour de vous, sur votre balcon même,
vos jardins,
dans vos petits, et faites l'effort de laisser quelques plants d'ortie, vous aurez des papillons, un petit tas de bois, vous aurez d'autres insectes, un compost, vous aurez d'autres insectes encore, et puis vous verrez, si vous avez des insectes, vous aurez des oiseaux, et puis soudainement, bizarrement, vous allez avoir arrivé des animaux que vous ne soupçonnez pas. C'est comme ça qu'un soir, j'ai vu arriver un hérisson, et que la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, et c'est complètement fou, quartier Saint-Agne, en serré que nous sommes dans des immeubles et des maisons, on a vu surgir un écureuil. Voilà, alors cet écureuil, il n'est pas venu par hasard, et il est allé d'arbre en arbre, sans doute depuis le jardin des plantes. C'est bien, la nature sauvage existe, alors il faut la connaître, et à partir de là, on est attentif, et puis on on gâche pas les choses.
Et c'est ce que tu enseignes à Félix, ton fils.
Mais naturellement, hein, c'est-à-dire, oui, effectivement, à un moment donné, je me souviens quand
tu lui apprends à regarder, justement, à être attentif.
Oui, regarder les choses, et puis, oui, voilà, et le respect des choses, c'est pas de faire de
prêchi-prêcha,
mais c'est vrai que un gamin a tendance à, et c'est un instinct, il faut croire, un petit gamin a essayé de dominer beaucoup plus petit que lui. Et,
oui.
Et il n'est pas rare, il est même tout à fait naturel à un moment donné de voir un enfant s'acharner contre des fourmis, par exemple.
Oui,
les fourmis.
Oui.
Ça, c'est plus petit que soi. Alors, les enfants, ils piétinent dans les fourmis. Bon, bah là, il faut simplement expliquer que toute chose mérite respect et toute chose a son utilité sur cette planète. Et à partir de là, le message passe. Mais faut soi-même être concerné, quoi. Faut être fasciné par les fourmis.
Toi, tu l'es, hein, ça se sent, passionné, ému par l'éternelle beauté de Dame Nature, on le sent.
Oui,
hein,
puis bon, les animaux sont sans doute souvent beaucoup plus fascinants que les humains, enfin, faut le reconnaître. En ce moment, je suis en train de lire un livre extraordinaire qui vient de sortir chez Payot sur l'émotion des animaux. C'est une chose qu'on niait, les scientifiques niaient le fait que les animaux avaient éprouvé des émotions. Et aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'effectivement, les animaux ont des émotions, et des émotions primaires et secondaires, donc des choses très, 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 très... Et donc, adoptent des attitudes qui peuvent paraître complètement singulières.
Oui,
voilà.
Et qui se rapprochent un peu...
Une anecdote, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en 2006... au Kenya, une petite fille a été sauvée par des lions. Elle avait été enlevée par un groupe de bandits. Alors, les circonstances sont complexes, mais au final, elle s'était retrouvée dans la savane, entourée de lions, et qui avait attendu l'arrivée des humains pour partir. Et la petite fille qui aurait dû être dévorée a été sauvée par les lions.
Oui.
Donc, ils connaissent donc la compassion. Bon. Alors évidemment, il y a des
peut-être qu'ils n'avaient pas faim ce jour-là, non?
Non, surtout elle pleurait et ses pleurs étaient assez proches des miaulements
des lionceaux.
Ah, voilà. Donc c'est quand même extrêmement
troublant. Oui, c'est troublant. Hein,
c'est troublant. Enfin bon, voilà. Donc les animaux ont des émotions. Petite parenthèse.
C'est bien avec toi. Non, mais c'est plein de petites parenthèses comme ça. Mais c'est le passionné. Hein, voilà. On retrouve aussi beaucoup d'ornithologie dans ce livre. On retrouve l'ornithologue passionné. Et puis, on apprend plein de choses. Alors, moi, qui ne suis pas du tout une experte en la matière, moi, j'ai le pic à bec d'ivoire, par exemple, qui est une espèce très rare d'oiseau.
Ben,
il est en voie de disparition.
Il était la dernière... jusqu'à il y a peu, la dernière observation dans la nature remontait à 1944.
Oui.
Donc on pouvait estimer que l'espèce s'était éteinte, plus que disparue, éteinte.
Ah, oui.
Et puis ces dernières années, dans l'Arkansas, dans les forêts reculées et profondes de l'Arkansas, des humains ont eu le plaisir rare de revoir le pic à bec d'ivoire, ce qui est quand même riche d'espoir aussi, parce que évidemment il y a des espèces qui disparaissent, qui ne reviendront pas, mais parfois avec notre concours, avec notre soutien, et ou par elle-même, une espèce peut durer. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais enfin.
Et on apprend aussi, enfin moi j'ai appris en tout cas, la pierrite du chou, qui est un superbe papillon. Hein,
un de nos papillons clairs parmi les plus communs.
Eh bien, oui, je ne savais pas que c'est la pierrite du
chou. Ou de la rave, ça dépend.
Et l'argiope...
L'argiope
frelon, c'est une araignée déguisée en frelon.
Voilà, c'est une
de
nos plus belles araignées
qu'on
voit au cœur de l'été, qui est magnifique.
Donc voilà, on apprend plein de petites choses comme ça pour ceux qui sont comme moi, très incultes sur ce domaine. On y parle aussi d'écologie, bien sûr, et de protection de la nature. Et puis, on découvre que Pascal Dessin est anti-sac plastique. Hein, voilà, c'est normal. Et qu'il est prêt à l'expliquer à une caissière de supermarché et à le dire haut et fort. Hein, donc, on rencontre... on lit ça aussi. On parle aussi de pénurie d'eau et du gaspillage des pays, de ceux qui n'en manquent pas encore.
Bien sûr.
Avec une note que tu as trouvée dans un autre l'hôtel d'Arras, qui est assez fabuleuse, hein, qui explique, voilà, qui propose la protection de l'environnement et notamment sur la pollution de l'eau par les lessives. Donc en évitant de donner son linge trop souvent à laver dans les hôtels. Et moi, j'ai trouvé que c'était, voilà, c'est une excellente initiative qu'il faudrait que tous les hôtels adoptent. On pourrait dire.
Mais c'est, ça veut bien dire que c'est à la portée de tous, quoi.
Ah oui, oui, c'est à la portée de tous. C'était un petit panneau, après, bon, voilà. C'est la personne qui
l'on
le lit, mais bon.
Ou que l'on vive, ou que l'on travaille. Récemment, j'ai appris que la consommation d'électricité en France en 2008 avait baissé de 1%. Ce n'est pas, à mon avis, seulement du fait de la crise et du fait que les gens, bon, ben, veillent un peu plus à la dépense. Je pense que ça participe aussi d'une prise de conscience. 1%, c'est pas rien, c'est pas anodin.
Ah oui, non,
donc ça veut bien dire que bon, les voilà, le volontarisme, allons-y tous.
Allons-y tous. Puis il y a des phrases comme ça que j'ai bien aimées aussi. La nature a beaucoup de mérite, ou bien elle n'est pas rancunière. J'ai trouvé ça assez.
Oui, elle s'obstine.
C'est vrai, oui. Et
elle
nous,
s'obstine
on s'obstine à la massacrer, ouais. Et elle s'obstine à nous rendre quand même des choses.
Elle a quand même une capacité de récupération de plus en plus longue, quand même.
Oui, quand même. Elle s'use.
Bon, faut voir comment les océans ont du mal maintenant à se régénérer. C'est très, très inquiétant. On la soumet quand même à de fortes agressions, quand même.
Forte pollution.
Mais bon, on voit une friche. Une friche, moi, ça m'émeut toujours beaucoup. Une friche industrielle, par exemple. Une friche ferroviaire. Moi, je suis toujours subjugué par de la façon dont la nature reprend
le dessus,
quoi.
Le dessus, après.
Ouais, c'est magnifique. Dans le Nord, notamment, quand je remonte dans le Nord et que je regarde par la vitre du train et que je traverse ces zones qui, il y a encore 15 ans, 20 ans, étaient très industrielles, il y a un retour de la nature avec une puissance incroyable, fascinante.
Mais, tant mieux.
Tant mieux. Oui, mais bon, c'est aussi des zones qui étaient consacrées à l'industrie.
Et aujourd'hui, il y a des ravages sociaux. Justement, donc tu parles de Dunkerque, ta ville natale. Alors dans ce livre, tu y fais allusion parce que donc tu y remontes de temps en temps, hein, voilà. Et tu fais allusion au fabuleux carnaval de Dunkerque, qui est, paraît-il, le plus beau de France.
C'est le plus grand.
Le plus grand,
voilà,
et le plus féerique, enfin le plus magique.
Féerique, je sais pas, parce que c'est un carnaval puissant. Voilà.
Puissant.
C'est indescriptible.
Il faut aller au carnaval de Dunkerque. C'est quand, au mois de février, hein.
Mois de février, oui. Ouais. Alors à Dunkerque même, ça dure le temps du week-end. Les Trois Joyeuses, c'est Dunkerque, la Citadelle, Rosendal. Mais en fait, le temps du carnaval en région dunkerquoise dure 2 mois.
2 mois.
Voilà. Donc il faut être quand même d'une bonne
constitution.
Voilà. Oui. Surtout que c'est pas une période où là-haut il fait très 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 beau. Hein.
Oui, alors on a tendance à se réchauffer avec des boissons un petit peu alcoolisées.
Exactement. le ciel a plutôt tendance à tomber en morceaux parfois. Donc, mais les gens, ils sont. C'est un carnaval démocratique, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a 150 000 personnes sur le Dunkerquois. Le jour du carnaval de Dunkerque, il y a 50 000 personnes déguisées.
Tout le monde joue le jeu, c'est pas
le défilé niçois, vous voyez, hein.
Oui, on en parlait tout à l'heure.
Voilà. Donc tu prends ton sac de patates et tu t'habilles un peu n'importe comment, c'est la tradition. Bon, alors maintenant il y a des costumes beaucoup plus élaborés, mais le carnaval, c'est voilà, on s'habille avec ce qu'on a. Les hommes prennent les habits de femmes, se griment et